On y va avec vous, André Lacombe, et ces mots qui font voyager.
On commence en Turquie, Hélène, avec kéfir. Connaissez le kéfir?
Je connais le kéfir.
Bon, parfait.
Ça se boit?
Ça se boit. Donc, une boisson légèrement acidulée et gazeuse, légèrement gazeuse, obtenue par fermentation de lait ou de jus de fruits aussi. On en fait avec du jus de fruits. Avec une levure dite grain de kéfir. Alors, la question, comment obtient-on des grains de kéfir? Pour 100 points. Pour y répondre, il faut remonter aux origines du kéfir il y a quelques milliers d'années. Afin de conserver le lait des vaches, des chèvres, des brebis, peu importe, les tribus nomades du Caucase, une très grande région qui englobe une partie de la Turquie, de l'Iran, de la Russie et d'autres pays d'aujourd'hui, ben, ces tribus-là faisaient fermenter ce lait dans des outres en cuir.
Des outres?
Oui, des sortes de sacs en forme de poche un peu. À force d'enlever et de remettre du lait dans ces outres, les micro-organismes auraient à la longue formé une colonie de levures et de bactéries sous forme de petits grains gélatineux, pas très appétissants.
Non, pas vraiment.
Et c'est ça les fameux grains de kéfir, ces petits grains gélatineux. Tenez-vous bien, les grains de kéfir qu'on utilise de nos jours sont des descendants de ceux qu'on utilisait à l'époque.
Je me tiens bien.
Excusez cet envolé. J'ai vu. Heureusement, vous n'êtes pas tombé en bas de votre chaise.
Non.
Personne n'a réussi à les recréer artificiellement. C'est pour ça que les colonies actuelles descendent de ces colonies millénaires. Et pour finir de vous convaincre, Hélène, si vous ne l'êtes pas déjà, le kéfir, c'est une excellente source de calcium, de protéines, c'est riche en probiotiques et ça aide à établir et à maintenir une flore bactérienne intestinale saine.
Alors, allons boire
Vive
du kéfir. Le pacha, maintenant.
Oui, toujours dans la même région. Un mot, le pacha, qu'on connaît surtout grâce à des expressions qui utilisent son sens figuré comme faire le pacha, hein, se faire servir, ou une vie de pacha, une vie fastueuse. À l'origine, le pacha, ben, c'était un titre généralement accordé aux gouverneurs et généraux dans le système politique et militaire de l'Empire ottoman, hein, qui, rappelons-le, a duré plus de 6 siècles jusqu'à la fin, même un peu après la Première Guerre mondiale. Et le mot proviendrait d'une forme raccourcie du mot persan « padisha », qui est devenu « pacha ».
Il me semble que ce serait un beau nom pour un chat, « pacha ».
Oui, je pense qu'un de mes frères qui a déjà appelé son chat « pacha » il y a longtemps.
Bonne idée. Non,
bonne idée. Toujours au Moyen-Orient, allons-y avec le « hasard », un mot provenant de l'espagnol « hasard », mais qui s'écrit « A-Z-A-R » en espagnol, et qui désigne un jeu de dés. Et ce mot espagnol est lui-même dérivé de l'arabe « azzar », qui désigne un dé à jouer. Alors, on voit tout de suite le lien avec la nature même du jeu de dés qui doit tout au hasard. Mm-hmm. Et on l'espère à la chance, hein, bien sûr. Une autre théorie qui complète cette première suggère que le terme français serait né à l'époque des croisades durant le long siège d'un château syrien nommé « hasard », H-A-S-A-R-T. Et les croisés, qui paraît-il s'ennuyaient, ont commencé à jouer au dé. L'histoire ne dit pas s'ils ont gagné ou ils ont perdu, mais ça complète cette théorie.
Oui. Ah, oh, le mohair, on est bien dans du mohair. C'est tout
ah,
doux.
Ah oui, c'est chaud. Et pour voir les origines du mohair, il faut se transporter au Tibet. Hein? C'est une fibre laineuse produite par la chèvre Angora, chèvre dont on connaissait effectivement l'existence au Tibet, 2000 ans avant Jésus-Christ, même chez les Sumériens, au 4e siècle avant Jésus-Christ. En passant, le Sumer, c'était une région antique qui correspond à peu près à l'Irak actuel. Adopté en français au 17e siècle, le terme mohair existait déjà en anglais, dérivé de l'arabe mouhayar, qui signifie étoffe de poils de chèvre.
On entend souvent la prononciation mohair.
Mohair. Effectivement.
C'est un beau pull en mohair.
Mais avant d'utiliser le terme mohair, on parlait de moire en français. Hein, M-O-I-R-E. Et lequel se prononçait, en vieux français, moire. Alors, très proche de mohair, n'est-ce pas? Moire. En passant, on parlait de chèvre angora. Le terme angora, mais il est dû à la présence de cette chèvre en Turquie dès l'Antiquité et à l'ancien nom de la ville d'Ankara qui s'appelait Angora. Et dans un passé, jusque vers le milieu du 20e siècle.
Ah, quand même!
Oui, oui. Pour terminer sur ce sujet-là, connaissez-vous la différence entre mohair et angora, justement? dans les termes d'aujourd'hui? Non?
Pas grave,
on va le dire. La laine mohair...
Vous êtes mieux?
La laine mohair provient de la toison des chèvres angora, tandis que la laine angora provient du pelage de lapin angora. Non, c'est un peu mêlant.
Chèvre pour mohair et angora
pour le lapin. Mais peu importe, là, ça donne des lainages doux, chauds et confortables. C'est
ah
ça
oui, ça console.
Ça console.
Et un de mes mots, ben, qui, le mot qui m'intriguait, là, je le disais en début d'émission, le cachalot, C-A-C-H-A-L-O-T.
Oui, mammifère de la famille des baleines. Le mot...
Vous dites baleine, vous?
Baleine. Ben oui, je ne suis pas de Québec, moi je ne dis pas baleine.
Mathieu, dites-vous baleine?
Non, moi je dis baleine.
Baleine. Éternel débat.
Non, c'est pas un débat. C'est vous qui...
Ouais.
C'est vous qui en faites un débat.
C'est nous qui sommes dans le champ.
C'est trop difficile.
Difficile.
Oui.
Alors, le mot cachalot est apparu en français au 17e siècle. D'abord sous la forme cachalu.
Ah!
Ouais, avec L-U-T. Un U. Oui. Ça vient du portugais cachalote, un terme dérivé lui-même de cachola, voulant dire grosse tête.
C'est une histoire.
Oui. Donc, poisson à grosse tête. Normal, quand on sait qu'un cachalot adulte, ça pèse au-delà de 40 tonnes. Effectivement,
ouais,
ça a une grosse tête.
Une tête pesante.
Oui. En Afrique, maintenant, pour terminer ces mots avec le zèbre, un mot d'origine portugaise utilisé depuis le 17e siècle. À cette époque, les Portugais faisaient partie des colonisateurs présents en Afrique, notamment en Angola. Lorsqu'ils ont découvert le zèbre, ils lui ont donné le nom d'une espèce d'âne sauvage abondamment répandue dans la péninsule ibérique, et cet âne se nommait zebra, un mot dérivé de l'espagnol cebra, C-E-B-R-A, qui était le nom donné par les Espagnols à cet animal.
Vous n'avez pas l'explication concernant son pelage?
Non.
Zébré,
non.
Blanc et noir.
Ben non.
À suivre. Deux expressions bien connues pour terminer cette chronique, André.
Absolument. Être au bout du rouleau.
À bout.
À bout.
Je t'aboute.
Non, c'est la prochaine fois que je ferai « je t'aboute ». Là, être au bout du rouleau, hein, fatigué, en manque d'énergie. Il faut remonter au Moyen-Âge, Hélène. On remonte souvent au Moyen-Âge, il me semble. À cette époque et même après, on utilisait un bâton pour y enrouler des feuilles collées bout à bout. Cet ancêtre du livre s'appelait un rôle. D'ailleurs, le terme, on l'utilise toujours en droit, hein, pour désigner le registre où sont portées les affaires soumises à un tribunal. C'est donc dans ce contexte-là, mais du côté du théâtre, qu'arrive une première version de l'expression. À l'époque, les dialogues des acteurs étaient inscrits sur ces fameux rôles qu'on appelait aussi des rôlets. Au 18e siècle, l'expression « être au bout de son rôlet » apparaît pour désigner quelqu'un qui est démuni, ne sachant que dire et que faire. On peut s'imaginer le comédien paniqué sur la scène, hein, qui est au bout de son rôlet et qui ne sait plus quoi faire.
Il a de la misère avec son rôle.
Oui, exactement. Au 19e siècle, le terme « rôlet » se transforme en « rouleau », notamment grâce à l'influence des banques qui utilisaient déjà les rouleaux de papier pour ranger les pièces de monnaie. Et le sens de l'expression se modifie. Être au bout du rouleau, ça veut dire davantage à ce moment-là être au bout de ses ressources financières. Et l'expression continue d'évoluer par la suite pour dire qu'on est au bout de ses ressources, mais sur le plan physique.
Et on termine avec « faire une coquille », c'est pas bien ça?
Non, c'est
mais souvent, c'est comme
des
inconscient un
ouais,
peu.
C'est ça, c'est la hantise des rédacteurs. Hein, pour dire qu'on a fait une faute dans un texte, soit par exemple en omettant ou en inversant des caractères.
Un lapsus littéraire.
Oui, ça.
Genre?
Absolument, parce que c'est vraiment à l'écrit qu'on parle de coquille.
Oui, oui.
Dans un passé encore récent, les typographes, hein, un métier aujourd'hui disparu, mais les typographes assemblaient des caractères en plomb pour élaborer des textes en vue de leur impression. Et ces blocs de plomb, ils étaient très, très petits. Puis malgré la dextérité du typographe, ça arrivait que deux caractères soient inversés ou qu'un caractère soit oublié, tout simplement. Mm-hmm. Mais pourquoi on parle de coquille? Ça ne dit toujours pas pourquoi. Mais il y a bien des versions qui circulent, mais à l'origine, la plus répandue mentionne qu'à la suite d'une réunion sur le calibrage des œufs à l'Assemblée nationale française, le journal officiel aurait diffusé un texte qui omettait la lettre Q dans coquille.
Ah.
Et c'est donc le mot que vous imaginez qui fut publié à sa place. Eh oui. Alors...
Couille.
Le terme coquille est donc resté dans le monde de l'imprimerie et plus largement dans le langage populaire un peu en dérision.
Ah oui.
Au lieu de dire le mot en C.
Alors, sur cette note rigolote, un grand merci André. On se retrouve dans deux semaines.
Parfait, Hélène, à bientôt.